Le groupe est au téléphone, donc normalement nous avons Johan, David, Michel et Julien au téléphone. Messieurs, m'entendez-vous?
Oui.
Oui, victoire.
C'est un gros progrès par rapport à personne.
Merci, c'est pas gentil de se moquer.
Non, les dieux de l'internet sont avec nous, c'est bien.
C'est carrément pas ta faute, c'est la technologie, dès qu'on en a besoin, elle est pas là pour nous.
Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Last Ride, donc avec Olivier, vous êtes en direct sur Vinyl Time. J'ai très très grand plaisir à vous accueillir ce soir, puisque comme on en a parlé un petit peu, pour être complètement transparent avec les auditeurs, on a discuté longuement hier et juste avant là sur le nouvel album, non, mais sur le single et tout ce qui était passé avant. Et j'ai grand plaisir à vous accueillir ce soir pour faire découvrir, je pense, à une partie des auditeurs l'environnement et la musique et le son de Trank. Donc messieurs, merci d'être revenus ce soir.
Merci à toi.
Merci à toi, oui.
Alors je pense qu'on peut déjà commencer par parler du premier single, parce qu'il est sorti le 11 mai. C'est un morceau qui a été enregistré à travers vos différents périples de concerts, en première partie de grands groupes, comme Anthrax, comme Disturbed, comme Deep Purple. Alors comment vous est venue l'idée d'enregistrer ce morceau, en sachant que pour moi c'est un morceau qui a beaucoup de force. Il va haut, il descend, il revient, il y a beaucoup, il est très structuré. Alors comment vous avez bâti cette vidéo, comment vous avez bâti ce morceau ?
Ah bah il y a deux histoires en une en fait, il y a l'histoire de la vidéo et il y a l'histoire de la chanson elle-même. Yo, tu veux peut-être parler des circonstances de...
Ouais, clip, hein. Alors pour le clip en fait, c'est un clip qui a été fait en deux parties, l'une qui était quand nous avons joué en première partie de Deep Purple à Riga, et l'autre c'était un autre concert où on ouvrait pour Anthrax à Moscou. C'est vrai que les deux concerts étaient dans des salles magnifiques. Pour Deep Purple, il y avait 15 000 personnes, donc c'est quand même très intimidant. C'est vrai que de jouer avant des légendes comme ça, ça rend très humble. Hein. On l'était déjà plutôt avant, mais c'est vrai que ça calme tout de suite. du coup, on a essayé quand même de faire en sorte de donner la meilleure performance possible. Et donc, c'est vrai qu'on a pris des images de ces deux concerts-là pour faire le clip en question. Et c'est vrai que la réaction du public dans les deux cas, alors que quand on est un groupe de première partie, c'est pas évident parce que les groupes viennent pour le headliner, pour le
bien sûr, bien
après.
Sûr.
Ils nous connaissent pas, mais dans les deux cas, alors que Deep Purple et Anthrax, c'est quand même des styles assez différents, la réaction du public a été super positive. Donc c'est vrai que nous, ça nous a, bon, forcément, ça fait plaisir, mais en plus de ça, ça nous a un peu permis de valider la direction musicale dans laquelle on allait, et donc sur Chrome en particulier, et qui est devenu un petit peu l'empreinte de toutes les chansons qui ont été composées par la suite et que vous pourrez entendre sur le prochain album. Donc c'est vrai que ces deux concerts-là ont été emblématiques à plus d'un niveau sur le côté légendaire de partager la scène avec des groupes comme ça et sur le côté validation de la musique qu'on fait.
Et d'ailleurs, on sent que sur le morceau Chrome, on sent qu'il est quand même, très actuel. Avec un son, il y a pas mal de synthé, il y a pas mal de bonnes choses. On sent aussi un son très roots. On sent qu'il a été enregistré, je pense, si je me souviens bien, aux États-Unis. Comment vous avez fait pour garder ce son roots, en sachant qu'on entend bien la batterie aussi?
En fait, on a enregistré. Il a été enregistré en France et en Suisse et mixé aux États-Unis. En fait, dans beaucoup de choses qu'on fait, on a tendance à mélanger une approche un peu traditionnelle, un peu vieille école, et puis quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc pour ce qui est de l'enregistrement, on est passé, on a fait très très attention à la façon dont notre performance était captée. C'est la vraie batterie, c'est pas de la batterie programmée. On est passé par tout un choix de micro vintage et de consoles analogiques vintage aussi, sous les conseils de notre ingé et coproducteur Yvan, qui travaille ici. Donc ça nous a donné du matériau qui était très riche à la base, qui donne ce côté roots avec beaucoup de texture, beaucoup de richesse. Maintenant, on voulait aussi un son qui soit à la fois contemporain et accrocheur, et qui rende justice à la puissance de la chanson telle que les gens peuvent la ressentir, oui, quand ils l'entendent sur scène. Et du coup, on a choisi d'aller se faire mixer aux États-Unis, à New York, par un ingé qui s'appelle Brian Robbins, qui a beaucoup travaillé avec des gens comme Bring Me the Horizon, par exemple, ou Asking Alexandria. Qui a pris ce matériau-là qui était très riche et qui lui a donné cette espèce d'impact et de tranchant auquel on tenait énormément, justement pour rendre justice à la puissance de la chanson. Et c'est ça que t'entends dans le mélange du côté un peu roots et de l'aspect plus moderne de la façon dont ça a été fait.
Oui, d'ailleurs, on peut aussi parler un petit peu à travers ce titre et ce côté un peu roots et divers sons, les différents groupes que vous écoutez, parce qu'on va, on voit que vous écoutez aussi bien du Depeche Mode que du Deftones, vous écoutez du Motörhead aussi bien que du Muse, du Nine Inch Nails, Pink Floyd. Voilà, c'est quand même différents univers qui amènent aussi peut-être à avoir ce son et cette musique et ces chansons, cette chanson en particulier qui est un petit peu différente.
Bah écoute, on a tous des goûts qui sont très éclectiques, y compris d'ailleurs des choses que certains d'entre nous adorent et d'autres pas du tout, et puis il y a des choses sur lesquelles on se retrouve, il y a des territoires communs sur lesquels on se retrouve. Dans cette chanson-là, ce que tu vas entendre, c'est deux des territoires sur lesquels on se retrouve et qu'on entend pas mal dans notre musique. D'abord, il y a un certain métal assez sombre, mais assez mélodique et assez accrocheur malgré tout. Des choses comme, bah, justement, tu parlais d'Audioslave dans les morceaux que tu allais diffuser. que ce soit Chris Cornell en solo, Soundgarden, toute cette vague-là. David en particulier et les trois autres membres du groupe aussi sont très fans de toute cette approche-là. Ça s'entend dans le riff de Chrome tel que David à la base nous l'a amené, et puis c'est vrai qu'on aime bien mélanger, on va dire, cette influence métal un peu 90s avec des choses un peu plus électroniques qui permettent de mettre la chanson un peu plus en scène. Moi, je suis un fan hystérique de Depeche Mode depuis le milieu des années 80, puis j'étais tout gamin, et c'est vrai que c'est l'autre influence qu'on entend un peu dans ce morceau, dans la façon dont toute la partie rythmique et guitare métal et enveloppé dans un traitement un peu électronique qui lui donne une couleur un peu inhabituelle, on va dire.
Oui, on sent bien cette... Enfin, moi, quand j'ai écouté le morceau, hein, c'était clair que le côté très actuel avec les sons de synthé rapprochant à Depeche Mode était une des choses que j'avais à peu près capté dans le morceau. Et d'ailleurs, c'est un des morceaux Depeche Mode qu'on écoutera tout à l'heure, puisque vous avez souhaité pouvoir l'écouter juste après.
Ça fait toujours du bien.
Oui, c'est clair. Est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu de l'avenir, et il y aura quelques questions des auditeurs là qui sont en train de tomber. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de quand on va pouvoir voir le jour le disque, parce que pour le coup, avec un tel single, on a envie de dire à quand un prochain single, voire à quand un prochain album. C'est la bonne question du jour. Même si la période n'est pas facile pour sortir des disques en ce moment, et que peut-être le single est peut-être la meilleure solution.
Je te cache pas que, un peu comme tout le monde, on avait tout un tas de plans sur la façon dont ça allait se passer cette année, y compris les moments où on allait aller défendre le disque en live, et puis évidemment, bah, le timing de sortie, et puis, bah, comme tout le monde, et c'est moindre mal, hein, nos plans ont été un peu chamboulés, mais il y a bien un album. Donc Chrome et X-Ray, il y a 12 titres au total sur l'album, il est fait, il est en boîte, et ce qu'on veut essayer de faire, dans la mesure où on est un groupe indépendant, on n'a pas un label avec plein d'argent pour nous aider à le sortir en bastonnant de la pub partout dans tous les sens, on essaye de le sortir d'une manière qui va nous permettre de connecter avec notre public potentiel de la façon la plus intelligente possible. Donc on va commencer par sortir un single, deux singles, trois singles, avant d'avoir atteint une masse critique de gens qui nous suivent, qui nous permettent de sortir de sortir l'album et qui soient entendus par suffisamment de monde. Mm-hmm. Mais il y a bien l'album.
Il y a l'album. Donc la bonne nouvelle du jour et l'info, c'est qu'il y a un album dans les tuyaux.
Complètement. Complètement, il est même dans la boîte.
Dans la boîte. Donc il est enregistré. Ouais. C'est l'info qu'on peut donner à nos auditeurs. Il est enregistré aujourd'hui. Et il faut juste définir la bonne période.
Ouais, c'est ça. Au départ, on comptait le sortir maintenant. Et puis, on étale un petit peu plus les choses dans le temps, dans la mesure où on n'aura pas les festivals et les concerts où on avait prévu de le défendre sur scène cet été pour nous aider à le pousser. On va faire ça de manière un petit peu plus progressive, mais un jour, mon prince viendra et l'album sortira.
Espérons qu'il sera charmant.
Ah, il est charmant.
D'accord. Petite question en direct d'un des auditeurs là, qui me demande si Paradise Lost peut-être peut-il faire partie de vos influences.
Ah, c'est intéressant comme question ça. À titre purement perso, pour le coup, oui, moi j'aime bien. Il me semble que David aime bien aussi. Moi, c'est un groupe que j'ai découvert à une époque où j'écoutais pas encore forcément beaucoup de métal, précisément parce que eux aussi, à une époque, ont mis un peu d'électronique dans leur musique. Ils ont travaillé d'ailleurs avec, avec un ingé qui s'appelait Steve Lyon, qui était un ingénieur du son, qui travaillait beaucoup avec, avec Depeche Mode et un peu avec Nine Inch Nails, je crois, qui les avait aidés à marier le trash duquel ils venaient à la base avec quelque chose un peu plus électro, un peu plus cold wave. C'était très très réussi. C'est pas tout à fait dans cet esprit-là qu'on bosse, mais oui, oui, c'est une très très bonne référence, c'est une bonne observation. Je sais pas qui a posé la question, mais il connaît son truc. Bravo.
Oui, c'est un qui suit un petit peu la musique avec moi depuis très longtemps. On va pas le nommer, il s'appelle Chris Garrel. Voilà. Qui est très connu aussi. Et qui d'ailleurs vous pose une autre question, Chris, en direct en ce moment. Il vous demande comment on décroche ce genre de, pardon, de première partie avec des groupes comme Disturbed, comme Papa Roach, comme Deep Purple et Anthrax.
On couche, hein, je crois qu'on peut le dire.
C'est le secret. Voilà, le secret.
Ah, voilà.
D'accord.
Et heureusement qu'on est quatre, parce qu'au bout d'un moment, ça fait...
Voilà, comme ça, on peut se répartir les rôles.
Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est une très bonne question. En fait, on avait, via notre précédent manager, on avait été mis en contact avec un promoteur qui faisait beaucoup de concerts en Europe de l'Est. Et au départ, lui nous avait proposé de faire deux dates avec les Prophets of Rage, donc anciennement Rage Against the Machine. Et donc le promoteur avait écouté notre musique, il avait trouvé ça super, il avait proposé ça au management des Prophets qui avaient eux aussi accepté. Donc on était pris sur deux dates en Russie, et puis le groupe sur toute leur tournée a annulé deux dates sur l'ensemble, c'était les deux sur lesquelles on était censé jouer, donc pas de bol. Et en fait le promoteur était un peu embêté parce qu'il trouvait que notre musique était quand même bien, en tout cas à son goût. Et il nous a dit, écoutez, je vais voir si je peux vous proposer d'autres choses. Et puis, trois semaines après, il nous rappelle, il nous dit, est-ce que Deep Purple, ça vous irait? je te laisse deviner notre réaction.
On a au moyen,
réfléchi. Oui. On n'était pas sur nous. On s'est dit, ça dépend. Quel type de lit on aura à l'hôtel? Enfin, voilà, on a été quand même assez... ça nous a pris 4 secondes pour accepter. Et c'est vrai que jusqu'à au moment où on est monté sur scène, on n'y croyait pas vraiment.
D'accord.
Et puis après, on y a bien cru hein, quand même. Hein. Quand on voit le monde en face de nous, on s'est dit, oui. Ah, donc c'est pas pour de rire. Oui. Et en fait, ce même promoteur, comme le concert s'est très bien passé avec Deep Purple, visiblement, ils ont eu de très bons échos du promoteur local au management de Deep Purple et au groupe lui-même. Du coup, il nous a dit, bah écoutez, si vous voulez, moi j'ai d'autres trucs. Et c'est donc le même promoteur qui nous a proposé Anthrax, qui nous a proposé Papa Roach. Donc c'est vrai que c'est. Voilà, le fait de se donner du mal pour être professionnel dans notre approche à la fois de la logistique, de la performance, de l'avant, pendant et après le concert, bah ça nous a permis en tout cas avec ce promoteur-là d'avoir des bons contacts. Et puis finalement, bah, quand il voit qu'on fait le taf, il fait appel à nous d'autres fois. Quoi.
D'accord.
C'est un peu pour ça qu'on se disait tout à l'heure que le Covid nous a fait un peu casser notre élan au moment où ça se passait plutôt pas mal, parce que c'est vrai qu'on était en discussion pour enchaîner sur d'autres concerts un peu du même gabarit quoi, et défendre l'album. Alors on va s'adapter, on va faire autrement, mais on espère avoir la chance de refaire ce genre de salle et dans une compagnie aussi incroyable dans un futur proche, parce que c'est vrai que c'était une expérience démentielle.
Oui, et quand on écoute le morceau Chrome notamment, on a plutôt envie de vous entendre dans une salle moyenne grande qu'une petite salle en fait. C'est ça qui semble étonnant avec l'écoute de ce morceau. Je pense que ça vaut aussi peut-être le coup d'avoir des grandes salles pour pouvoir faire passer ce type de musique peut-être.
Mais comment donc ? Ouais, non, plaisanterie mise à part, oui, t'as complètement raison. En fait, on écrit la musique qu'on fait, il ne s'agit pas d'être prétentieux ou quoi que ce soit, elle est assez ample. C'est un truc qui appelle du grand espace. Et du coup, c'est vrai que la façon dont on a choisi de bosser le live, ça a été plutôt de se dire, on va essayer de taper des premières parties de groupes déjà établis qui nous permettent de jouer les morceaux dans un espace qui leur rend justice, plutôt que d'enchaîner les headlines dans des toutes petites salles où on va juste massacrer les oreilles des gens ça va pas forcément être aussi adapté que ça au son et à la musique qu'on fait. Après, on a fait des tout petits concerts qui sont super bien passés aussi. On a même fait des concerts unplugged, des choses comme ça, et on apprend énormément. Dans une certaine mesure, c'est même plus difficile de faire marcher un concert devant 50 ou 100 personnes que ça ne l'est devant 15 000. Mais c'est vrai que la façon dont on a tendance à concevoir et à arranger et à produire les morceaux, elle appelle plutôt de l'espace.
D'accord. Et maintenant, pour revenir juste sur Chrome avec le fait que l'album est sorti le single est sorti le 11 mai. Ouais. Quelles ont été les réactions qu'ont donné les fans? Parce que j'ai vu pas mal de bonnes réactions sur la page YouTube avec la vidéo. Comment vous avez ressenti? Quel message ont passé vos fans avec Chrome?
Écoute, pour l'instant, personne nous a rien jeté à la tête.
Donc ça se passe pas. Ce qui est déjà une bonne nouvelle.
C'est déjà une bonne nouvelle. Non, les réactions qu'on a, c'est un peu ce que tu disais, Yvan, tout à l'heure par rapport à la réaction qu'on a eue de la part des publics de Deep Purple et d'Anthrax. Les réactions qu'on a sont toujours très très bonnes. Notre problème, c'est de nous exposer. C'est sur ça qu'il faut qu'on bosse. Mais c'est vrai que jusqu'ici, les réactions sur Chrome sont très très bonnes. D'ailleurs, de la part de gens qui sont plutôt branchés métal et de la part de gens qui sont plutôt pas du tout branchés métal. Sans doute parce que la musique qu'on fait elle s'inscrit à la croisée de plein de choses hein, et que plein de gens peuvent y trouver des choses à aimer, mais c'est vrai que les réactions sont plutôt très bonnes. Tu me posais tout à l'heure la question de savoir comment qu'est-ce qui avait inspiré la chanson. C'est en partie une chanson qui a été inspirée par des amis qui font partie d'une association de bikers qui ont été très tôt un vrai soutien pour nous, qui sont venus beaucoup nous voir en concert, y compris dans des salles qui étaient assez loin de leur base. Et en discutant avec eux de leur passion pour la moto et de ce qui pouvait la motiver et de la façon dont ils la ressentaient, on s'est dit que ça pourrait être pas mal. On avait cet instru qui allait devenir Chrome, qui commençait à prendre forme, et on s'est dit que ça serait peut-être pas mal d'écrire la chanson comme si c'était un peu leur hymne et quelque chose qui reflète leur état d'esprit en tant que biker. Et du coup, la chanson parle essentiellement de ça, d'où son titre, sans quoi on l'aurait appelé, je sais pas, carton. Papier. D'accord. Mais finalement, Chrome s'était adapté.
On va écouter dans pas longtemps un autre morceau que je trouve pas mal aussi, qui s'appelle Undress to Kill. Et yes. Je pense que ce morceau sera sur votre nouvel album.
Oui.
M'a-t-on dit?
Alors, oui, on t'a bien dit. Elle y sera, mais dans une version un peu différente de celle que tu vas diffuser là.
D'accord.
Celle que tu vas diffuser là, c'est une version qu'on a enregistrée et mixée en 2017-2018, à l'époque où on commençait à se dire que les chansons qu'on faisait nous plaisaient suffisamment pour mériter d'être traitées vraiment professionnellement. On aime toujours beaucoup la chanson, on l'a réenregistrée dans une assez large mesure et du coup bien évidemment remixée pour la version qui sera sur l'album, où la chanson reste la même, la mélodie, le texte, l'arrangement, tout ça elle-même, mais on l'a jouée avec plus de puissance et mixée avec un côté beaucoup plus tranchant que ce que tu vas passer là, qui donne cela dit une assez bonne idée de la chanson hein. On aime toujours beaucoup la chanson, on est très fiers. Mais oui, elle sera sur l'album, on va dire, sous stéroïde.
Parfait. Juste après, on écoutera vos choix, parce que je vous ai fait participer quand même aussi un petit peu à l'émission, parce que je vous ai demandé deux titres que vous auriez souhaité écouter si vous avez été à ma place. Donc vous avez choisi le Audioslave, le morceau Cochise, et puis le Depeche Mode Walking in My Shoes. Alors pourquoi ces deux choix qui sont quand même, on va dire, diamétralement opposés, mais qui reviennent quand même à ce qu'on vient de discuter sur Chrome et la manière dont vous bâtissez vos morceaux et de vos choix musicaux?
C'est-à-dire, on avait hésité à proposer un Joule, puis finalement on s'est dit que non.
Ça aurait été compliqué, j'ai pas en stock hein, de toute façon.
C'est bien, je te félicite. Non.
Non, mais je pense que là-dessus, excuse-moi Michel, mais je pense que c'est ce que disait Michel tout à l'heure, on a tous les quatre des influences très diverses. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et ce qui nous intéresse, ouais, c'est de mettre des choses qui ne sont pas forcément naturelles dans leur association et de voir ce qui se passe. Il y a des fois ça fonctionne, il y a des fois ça ne fonctionne pas. Mais on essaye toujours de se dire, OK, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Qu'est-ce qui pourrait nous donner des textures, des ambiances qui rendent le morceau à la fois intéressant, mais sans tomber dans le cliché ou dans le facile? Et c'est vrai que du coup, ça donne, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur Chrome, et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire sur l'ensemble de l'album, c'est que voilà, on va toujours essayer de trouver quelque chose qui rende les chansons intéressantes à écouter du début à la fin, qu'il y ait une progression, que ce soit linéaire ou que ce soit qu'il y ait des hauts et des bas, mm-hmm. En tout cas, qu'il y ait à chaque fois l'auditeur qui l'écoute une fois ou 20 fois, qu'il ait peut-être des choses qu'il n'avait pas repérées à la première écoute, qu'il découvre petit à petit. Et c'est vraiment ça vient de toutes ces influences différentes, qui donne normalement, si on fait bien notre travail, qui donne un mix intéressant.
Ouais, et puis bon, l'influence Chris Cornell et Soundgarden, là, avec David au téléphone, je pense que tu dois avoir le fan ultime de Chris Cornell.
C'est assez majoritaire, oui, ça prend pas mal le dessus. Toute cette période-là, Audioslave, Soundgarden, c'est. Bon, il y a pas mal de Pearl Jam aussi, quand même, hein. Ça traîne beaucoup dans.
Oui, qui aurait dû tourner cette année d'ailleurs et qu'on verra certainement l'année prochaine.
Ouais.
D'accord, d'accord. Une question avant de vous laisser, et puis je pense qu'on vous laissera le. Je vais vous laisser le dernier mot pour la fin. L'autre question, c'est est-ce que vous pensez qu'on vous verra en tournée en France en 2021?
Alors,
ou ailleurs.
Pensez.
Wow. Je sais pas. Ouais, ouais.
On espère surtout. Je crois que c'est ça le mot. On en parlait hier avec toi au moment où personne ne nous entendait, donc on s'est dit oui. Des trucs absolument incroyables. Mais l'un des trucs qu'on s'est dit hier, c'est on fait la musique qu'on a envie d'entendre. On fait de la musique dont on aimerait pouvoir se dire ouais, même si j'étais pas dans ce groupe, j'achèterais l'album. Ce qu'on va essayer de faire d'ici 2021, ce qui est évidemment pas facile compte tenu des circonstances, mais a priori rien n'est impossible, c'est justement de se donner les moyens d'arriver à toucher suffisamment de gens avec la musique en question pour se donner les moyens de pouvoir partir en tournée en 2021 d'une manière ou d'une autre, parce que c'est clair qu'on adore être en studio et peaufiner les morceaux, et plus on est un peu perfectionniste, donc ça nous a quand même pris un an et demi pour faire l'album, grosso modo,
oui.
Et encore, ça, c'est, je suis généreux, mais ces chansons, elles sont faites pour exister sur scène. Et nous, le plus grand plaisir qu'on a en tant que groupe, c'est ça, c'est de connecter avec les gens en partageant les morceaux avec eux sur scène. Sans quoi, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pas pour faire ça, pour nous, ça fonctionne pas. Donc, est-ce qu'on pense ? Bah écoute, on sait pas, on espère très violemment.
Voilà. Oui, je pense que pour 2020, c'est un peu cuit, mais 2021, ça devrait être la bonne période.
Écoute, on espère, ouais.
Ok, avant de se quitter, avez-vous un message pour les auditeurs ?
Est-ce qu'on a un message pour les auditeurs ? Est-ce qu'on a un message pour les auditeurs, les mecs ?
Moi, je dirais que, comme tu disais, Michel, on compose et on joue de la musique qu'on aimerait bien écouter en tant qu'auditeur. On espère que nos goûts sont... Ce qu'on a essayé de faire sur l'album, c'est d'avoir une vraie richesse et une diversité dans les ambiances. Là, Chrome, c'est... Y a quelques morceaux qui sont dans une veine similaire, qui ont chacune leur identité, mais en tout cas dans un niveau d'énergie similaire. D'accord. Et puis on a essayé de faire d'autres choses pour voir jusqu'où on pouvait aller, tout en restant un groupe cohérent, mais de voir, pour essayer d'avoir plus de diversité, de richesse dans l'écoute. Donc on espère que tes auditeurs, Olivier, trouveront ça à leur goût.
Eh ben,
ce qui était génial d'ailleurs de ce point de vue-là, c'est qu'à chaque fois qu'on a joué, tous les gens, d'abord il n'y a que des gens qui sont venus nous voir avec des réactions hyper positives et qui nous demandaient où est-ce qu'on pouvait trouver les morceaux, etc. etc. Et si tu regardes en fait l'éventail de tous les gens qui ont réagi de manière hyper forte à ce qu'on avait joué pour eux, ça allait de gamines de 18 ans à des fans de métal de 55 ans et qui avaient tous la banane d'une oreille à l'autre, parce que ouais, c'est vrai que c'est des morceaux qui sont assez intenses, mais qui sont quand même qui sont assez cathartiques, quoi, assez accrocheurs. Les gens se sentaient bien une fois que les chansons les avaient traversées comme ça. Il y avait vraiment une impression de waouh, là je viens de vivre un truc qui était vraiment incroyable, qui était super flatteur pour nous. Mais ce qui était encore plus flatteur, c'était de voir à quel point ouais, il n'y avait pas un type de personnes ou c'était pas un intégriste de tel ou tel genre de musique qui disait c'était génial, et les autres qui me disaient mais qu'est-ce que c'est que cette merde épouvantable, et c'est pour ça qu'on a envie de repartir sur scène le plus vite possible, c'est parce que d'avoir cette impression qu'autant de gens peuvent se retrouver autour de ce que tu fais comme groupe, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus satisfaisant pour nous.
Eh bien écoutez, Johan, David, Michel, Julien, je vous remercie. On va continuer tout de suite avec Undressed to Kill et on écoutera après Audioslave et Depeche Mode. Messieurs, encore merci. Merci pour votre patience. Et puis on écoute tout de suite donc Undressed to Kill. Je vous souhaite une excellente soirée.